This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café. L'objectif de Humanslink et de cette pause café, c'est de préparer les organisations dont l'humanité a besoin. Et on organise ce live pour vous donner un rendez-vous quotidien tous les jours de la semaine. Et oui, on revient tous les jours de la semaine à 11h pour favoriser le lien humain, l'entraide, mais aussi la solidarité. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à partager cette publication avec quelqu'un qui vous est cher. Sur YouTube, c'est pareil, petit pouce bleu pour nous encourager avec l'algorithme. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton en bas à la chaîne. En cette période de confinement, on publie des vidéos tous les jours et la petite clochette est là pour les notifications. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà connectées. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Moi, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis présentement à Montréal. Je vois qu'il y a Yolande qui est arrivée, il y a Maggie, bonjour Maggie, bonjour Catherine. Il y a Fabrice qui est là aussi, Catherine également. Bon, mais ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et mon invité aujourd'hui a été correspondant à l'international, notamment pour les programmes exécutifs MBA avec l'Université de Sherbrooke, il pourra nous en parler. Et aujourd'hui, il est expert en recrutement, spécialiste en développement de carrière à l'Université de Sherbrooke au Canada. Bonjour Sébastien.
Bonjour Valentin.
Ça va bien ?
Ça va très très bien.
Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour prendre une pause café avec moi aujourd'hui et toute la communauté Humanslink.
Avec grand plaisir, vraiment.
Tu es équipé, ça y est, c'est ton café. Tu t'es café.
Incontestablement.
Pardon ?
Incontestablement. J'aimerais bien avoir du café Édouard ou du café Choulette, mais ce n'est pas nécessairement évident d'avoir ça ici.
Non, hein ? Alors oui, parce que toi, tu es à Montréal du coup en ce moment ?
Je suis à Montréal, je suis dans une partie de Montréal qu'on appelle Rosemont, plus précisément au Shoppingus. C'est un quartier qui a été d'une ancienne usine, qui a été complètement refait et qui est une zone vraiment très, très agréable.
En plus, ce n'est pas très, très loin de chez moi. Alors, je profite, il y a Margot ici qui nous salue, il y a Marie-Pierre aussi qui dit bonjour de Guadeloupe, il y a Lydia qui est là, salut Lydia. Ouais, merci à tous de vous être connectés. Si vous êtes sur Facebook et sur YouTube, pendant toute cette pause café, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Il y a Jean-Jacques French de Humanslink qui est là pour vous accueillir et vous répondre. Et puis nous, avec Sébastien, si on voit des questions qui nous plaisent et qui sont pertinentes à la discussion, on n'hésitera pas à les faire remonter. Comme ça, on va pouvoir avoir du fun tous ensemble ce matin. Sébastien, toi, cette période de confinement un peu particulière, bon, alors c'est presque la nouvelle réalité maintenant, j'ai envie de dire. En plus, ici à Montréal, le déconfinement a été encore repoussé, je pense, jusqu'au 25 mai, potentiellement.
Mmh, tout à fait.
Comment tu le vis, toi, cette période-là ?
Écoute, paradoxalement, je ne le vis pas trop mal. Enfin, aussi bien qu'on puisse le vivre.
Oui.
J'ai vu de gros atouts, de grosses choses très positives se sont passées. Je me suis rapproché de plein de personnes. Avant, je n'avais pas cette opportunité-là. Mais je dois avouer que le contact avec les gens que j'aime me manque, c'est sûr. C'est certain.
Ouais.
Non, ça a mis en exergue le fait que ma famille me manquait beaucoup plus que ce que je pensais, que mes amis me manquent aussi beaucoup, et puis mes collègues de travail aussi à qui je pense tous les jours, que je contacte tous les jours. C'est sûr que ça a des avantages et des inconvénients comme beaucoup de choses.
Ouais. À l'Université de Sherbrooke, vous êtes combien dans l'équipe globale hein, c'est...
Oula, écoute, on est plus de 5000 employés, mais si on parle de l'équipe avec laquelle je travaille au quotidien, je te dirais qu'on est 4 personnes au campus de Longueuil, puisqu'on a aussi un campus à Longueuil, c'est dans la périphérie de Montréal, une jolie tour de 15 étages, mais toute l'équipe au complet, on est une cinquantaine de personnes, et je suis très très fier de pouvoir dire qu'on se côtoie tous les jours maintenant. Un des bénéfices du confinement, c'est que justement, on a appris à télétravailler et à faire des réunions de travail, en fait, à distance. Et ce qui fait que je vois maintenant des collègues quasiment tous les jours que je ne voyais pas.
Ah ouais, carrément. Effectivement, en off, on discutait et tu me disais, il y a des gens que tu vois beaucoup plus aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'avait interpellé et je trouvais ça beau. Alors, j'ai envie de le partager avec tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. Tu me disais, les outils de visio, en fait, nous permettent de quelque part plus nous écouter aussi les uns les autres.
C'est moi qui suis un grand fan des circuits courts, c'est-à-dire de consommer local. J'ai appris ça notamment en Guadeloupe, l'importance de consommer local et de favoriser les tissus économiques le plus proche de soi. J'étais assez fan de ça en étant un petit peu en réaction à ce qui se faisait de l'externe. Et puis finalement, je me suis aperçu que la communication me permet aujourd'hui, même en étant à Montréal, écoute, je discute tous les jours avec un associé sur une entreprise que j'ai en Guadeloupe, avec qui, dont je suis associé. Je discute avec mes copains, une petite bande de copains, quasiment tous les jours aussi. Et bien évidemment, mon père et ma mère en FaceTime tous les matins. Donc, c'est une opportunité qui est assez géniale. Avant, je ne le faisais pas tout ça. Donc, je me dis, waouh, c'est un mal pour un bien.
Et ouais, y a toujours des opportunités, il y a toujours le beau côté. C'est Serge Marquis qui est au Québec en ce moment aussi, qu'on a reçu sur cette pause café, qui nous disait c'est le côté lumineux de cette situation. J'aime bien cette formulation et c'est vrai, même nous, on le voit avec Jean-Jacques et avec Human Slink, il y a des gens à qui on parle très régulièrement maintenant, qu'avant, en fait, ce contexte, hors de ce contexte-là, on parlait que de manière très sporadique, quoi. Il y a même des gens avec qui on a renoué grâce à ça. Et puis bon, ben regarde, aujourd'hui, on peut faire une pause café avec toi, Sébastien. C'est top.
Ah oui, puis ça, c'est vraiment particulier parce que ça m'a obligé aussi à prendre un petit peu un temps de recul. Et j'ai trouvé ça quand même assez exceptionnel d'avoir l'opportunité de prendre ce temps-là.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu parles de cette partie, cet élément de réflexion. Mmh. Est-ce que la Guadeloupe te manque en ce moment? Je sais que tu as attaché d'une manière ou d'une autre à la Guadeloupe.
Ouf, là.
Par de confinement, on est tous.
Pourtant, tous ceux, je pense, qui ont vécu en Guadeloupe, ouais, qui ont mis ce territoire, on y pense tous les jours. Un attachement, c'est un... Écoute, tu m'as pris tout à l'heure pendant que j'étais en train d'écouter un morceau de musique.
Ça c'est vrai.
Un dream. Écoute, si j'ai un morceau, c'est celui-là.
Tu peux redonner le titre, Sébastien, s'il te plaît.
Caribbean Dream.
Ah, ok.
Tout simplement. C'est du style band, là, ça vaut ce que ça vaut, on s'entend, comme on dit au Québec. Mais oui, non, la Guadeloupe me manque tous les jours, mais pas que là, je pense à Saint-Martin, la Martinique, parce que j'ai eu cette chance de travailler en fait sur ces trois îles. Et c'est sûr que j'ai créé de l'attachement, j'ai créé avec des gens qu'on aime.
Et ouais.
Les mots sont parfois difficiles, mais là, ouais, c'est sûr.
Ok.
C'est une. J'entends. Et au-delà de ça, j'ai envie de te dire que ça m'a nourri cette expérience en Guadeloupe et m'a permise aujourd'hui. Dans le contexte actuel, de me donner tous les outils pour pouvoir rebondir. S'il y a quelque chose que j'ai appris de la Guadeloupe, c'est la résilience et la capacité d'adaptation et le fait de ne jamais abandonner. Les îles, en règle générale, tu sais, on est souvent soumis à des contraintes qui sont spécifiques. On a les cyclones, on a les tremblements de terre, plus rarement, heureusement, les crises économiques, les crises sociales, et tout ça, ça nous a appris à rebondir. Je dois t'avouer que la machine Québec ronronne pas mal. Ça a fonctionné, l'économie allait bien, tout se passait bien. Et puis d'un seul coup, on se prend une crise de Covid. Et finalement, on s'aperçoit que moi, à titre personnel, j'étais préparé à ça. C'est-à-dire que j'ai su rebondir très vite, pas me laisser abattre et dire, OK, comment est-ce qu'on construit différemment? Et puis même, comment est-ce qu'on peut accélérer, profiter de cette crise pour que ça devienne une opportunité? Et ça me positionne différemment, l'état d'esprit est différent et on lâche pas. Et ça, c'est vital. Et puis, j'ai envie de te dire que le Québec aussi a ce côté un peu merveilleux de positif. Ça peut être parfois un peu agaçant d'avoir des gens qui sont toujours « Ouais, c'est le fun, ça va aller, ça va bien aller. » Au bout d'un moment, on est un petit peu fatigué avec ces expressions, mais finalement, dans le quotidien, ça aide. Et puis, tu as ta famille autour de toi qui te soutient, le regard des gens que tu aimes au quotidien, dont tu te rapproches, et tu t'aperçois que finalement, les choix que tu as faits, même s'ils étaient difficiles, mais il t'amène à aller un peu plus loin. Puis, c'est ce que j'ai toujours dit, on doit apprendre à transformer une contrainte en opportunité. Ça, c'est un peu ma maxime favorite.
C'est ta maxime, ça, Sébastien,
je crois. C'est ce qui me drive un petit peu, avec une énergie que certains membres de ma famille qualifieraient d'un peu débordante. c'est un petit peu mon moteur. Ma famille, mes amis sont réellement mon moteur. Et c'est ce qui me permet aussi peut-être d'être plus efficace dans mon métier.
Et oui, j'entends. D'ailleurs, c'est un autre avantage quelque part qui est intéressant dans cette situation, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aussi peut-être plus profiter de ta famille tout en travaillant? Parce que je sais qu'avec l'Université de Sherbrooke, vous n'avez pas lâché, vous continuez à travailler à distance. Puis tu l'as dit, vous êtes tout le temps en communication avec vos équipes. Mais au quotidien, quelque part, il y a cet élément-là qui est peut-être nourri.
Écoute, ça, moi, ce qui m'a sidéré, c'est la capacité qu'ont eu les équipes, singulièrement l'équipe du service des stages et du développement professionnel, l'équipe à laquelle je suis rattaché, ont eu cette capacité à se retourner, comme on dit au Québec, sur une pièce de 10 cents. Là, ils sont d'une vitesse incroyable.
Ouais.
En moins de 48 heures, on était tous à distance. Et je dirais qu'au bout de 72 heures, on était tous opérationnels à distance. Pour une machine de 50 personnes avec trois niveaux d'équipe différents, avec, on gère quand même pas loin de 1500 étudiants sur 4 mois, on gère 1500 étudiants. Toutes nos opérations ont été dématérialisées à 100%. Et je peux même te dire qu'aujourd'hui, on est le 8 mai, était la date limite pour rendre les rapports. Tout est fait. C'est comme si finalement, on avait eu cette capacité qu'on ignorait et qu'on a mise en œuvre sur un claquement de doigts.
Impressionnant.
Honnêtement, j'ai été très surpris, surtout que j'ai une petite définition qui fâcherait les recteurs d'université. Je dis toujours que l'université est une institution conservatrice en charge de l'innovation. c'est pas très gentil, mais c'est vrai. On pense souvent que l'université, c'est un mammouth. Écoute, sur ce coup-là, le mammouth, en tout cas, l'Université de Sherbrooke, plus précisément, puisque je parle de celle que je connais, les autres, je pense qu'ils ont aussi eu cette capacité-là, en tout cas, je l'espère. Ils ont retourné sur un claquement de doigts. C'était vraiment impressionnant. Je suis admiratif de mes collègues, réellement.
Est-ce que tu peux préciser rapidement, c'est parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, toi, tu es aujourd'hui expert en recrutement, et pour l'Université de Sherbrooke, tu es spécialiste en développement de carrière. Et c'est un terme qu'on utilise peut-être moins dans la carrière, le développement de carrière. Et pour un étudiant, comment ça fonctionne? Parce que tu dis, tous les 4 mois, tu as 1500 étudiants dont votre service a la charge. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer
En quelques mots, c'est ce qui m'a rapproché de l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, depuis la Guadeloupe, c'est une vieille histoire. Souvent, on me dit, tu viens d'arriver à l'Université de Sherbrooke. Pas vraiment, non, je travaille dessus depuis 2006.
Tu étais correspondant depuis la Guadeloupe avec le programme de MBA ou pas?
Oui, mais bien avant, je travaillais en tant que secrétaire général pour une organisation qui est connue en Guadeloupe, qui est une association de formation qui s'appelle le LASFO. Et on avait un projet de développer des programmes à forte valeur ajoutée, dont des programmes exécutifs MBA. L'Université de Sherbrooke a été choisie. C'était une cible, en fait, de la Guadeloupe vers le Québec, c'est-à-dire qu'on a choisi d'aller là-bas. Là, je parle, à l'époque, je suis en Guadeloupe, donc d'aller au Québec pour récupérer une université qui avait la capacité de faire ce qu'on appelle le programme coopératif. Alors, c'est quoi le programme coop? Pour ceux qui… Je vais parler en bon français, c'est l'alternance.
OK.
Sauf que les programmes académiques sont adaptés aux réalités du terrain. Ce qui veut dire que les étudiants, en fait, font une année de stage dans les organisations, donc ils font trois stages de 4 mois, et ça leur permet d'acquérir de l'expérience et d'être complètement opérationnels à la fin de leurs études.
Effectivement. Oui, on parle dans un cas d'un programme, par exemple, d'un bachelor qui dure 3 ans ici au Québec, à l'université. Et donc, dans chaque année, c'est ce que tu nous expliques, il y a 3 mois par an, sur les 3 années d'études, 4 mois, pardon, 3 fois 4 mois. 4 mois où on va être en entreprise et c'est rémunéré, on travaille sur des vrais projets.
C'est rémunéré, c'est encadré, c'est un vrai travail. Donc, ce qui fait que, et ça peut être ou dans la même organisation ou dans des organisations différentes. Donc, imaginons que pas, et pour ça, il y a à peu près une cinquantaine, donc une grande majorité de programmes sont coopératifs. Et ces stages-là sont gérés par le service dont je fais partie. C'est-à-dire qu'on est le lien entre l'aspect universitaire, académique et le monde professionnel. C'est ce qui m'a toujours passionné, c'est de pouvoir établir des liens dans ces deux univers-là qui pourraient paraître parfois un petit peu à l'opposé, mais dont il existe beaucoup de liens. Et le développement de carrière, justement, c'est de capitaliser sur ces expériences pour permettre à l'étudiant de découvrir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas et de démarrer sa carrière de la meilleure façon possible pour pouvoir évoluer.
C'est fascinant. Puis quand tu dis que on fait pas toujours le lien entre les deux, et c'est peut-être même un peu dommage, parce que techniquement, c'est aussi la force de l'Université de Sherbrooke, selon moi, c'est que c'est des enseignements et une approche qui est très pratique, qui est très proche du terrain. Et du coup, dès qu'on sort un étudiant qui sort d'université avec cette approche-là et un service comme le vôtre, ça permet d'être beaucoup plus opérationnel. Donc, ce que j'entends, c'est que dans ta position, quelque part, c'est important de comprendre surtout la réalité, les besoins du monde de l'entreprise, le marché de l'emploi, les besoins en recrutement pour pouvoir que l'université, en fait, puisse préparer ce dont le marché du travail a besoin.
C'est sûr, c'est notre mission. Et puis, j'aimerais quand même clarifier un point. Je ne suis pas là pour vendre l'Université de Sherbrooke, heureusement, là, mais même si on est la deuxième au Canada et la première au Québec, mais il y a d'autres universités à Montréal qui font ce genre de choses. Tu as l'UQS qui le fait, tu as Polytechnique qui le fait, mais dans du génie. Tu as l'Université de Concordia qui le fait, mais en anglais. L'Université de Sherbrooke est la plus ancienne. On a 60 ans d'expertise dans le domaine, mais dans l'absolu, beaucoup d'universités ont tendance à embrayer le pas. À travailler là-dedans. Chaque université, en fait, a son image de marque à Montréal. Les gens l'ignorent, mais j'ai beaucoup de respect, moi, pour les étudiants qui vont à l'Université de Montréal, à McGill, à Concordia, à Laval ou à l'UQAM. Chacun a leur propre image et leur force. Nous, c'est le programme coop, c'est-à-dire l'expérience. C'est pour ça qu'on est proche du milieu de l'entreprise. Et ce que j'aime, c'est que ça me rapproche beaucoup de la Guadeloupe. Parce que il y a le côté pratico-pratique, tu sais, le côté débrouillard, le côté. Quand on pose souvent la question aux étudiants de l'université, on leur dit mais c'est quoi votre première qualité ? Ben on est débrouillard. Puis ça me fait penser toujours à cette expression, tu sais, débrouillard pas pêché. Ouais. où on a beaucoup de d'antillais en fait qui ont cette capacité à pouvoir rebondir. On a beaucoup de gens qui ont cette capacité à pouvoir mettre en place des choses. Et ça c'est je dirais que c'est unique. Mais c'est un trait de particularité, je pense, qui a commun entre les Québécois et puis les Antillais. Tu sais, le Québec, c'est une île francophone entourée d'anglophones. Les Antilles, c'est une île entourée également d'un autre milieu. Et on apprend à interagir.
C'est vrai.
À trouver des solutions. Il y a ce côté-là que j'aime beaucoup.
Oui, puis alors. Je peux partager mon expérience rapidement. Moi, j'ai fait l'Université de Sherbrooke pendant 3 ans. Et donc, effectivement, ce côté pratico-pratique et de pouvoir, dès tout jeune, en fait, dès qu'on commence à étudier, de se plonger dans des problématiques et on sent que c'est ce qui m'a, personnellement, ça me convenait très bien parce que je voulais pouvoir faire des choses concrètes et qui collent à la réalité. Et donc, ça, c'était fabuleux à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a même le directeur d'HEC Paris qui cherche à recruter dans cette université par moment pour former des entrepreneurs. Donc, je me rappelle même, nous, on a été approchés pour faire justement des maîtrises scientifiques orientées sur l'entrepreneuriat pour potentiellement aller à HEC Paris.
C'est sûr que c'est une image de marque particulière, mais si tu peux faire un lien avec le déconfinement, je te dirais qu'il y a ceux qui sauront s'adapter. Puis il y a ceux qui vont vouloir rester sur les mêmes paradigmes, en vouloir reproduire comme c'était avant. Irrémédiablement, la situation ne sera plus la même. Je dirais qu'il y aura un avant et un après. Pour reprendre, puis alors, je vais mettre toutes les, on va mettre vraiment entre parenthèses ce que je vais dire, mais de la même manière qu'il y a eu un avant le 11 septembre, où il y a eu un choc électrique majeur, de manière que la crise financière qu'on a connue en 2006-2008 a secoué l'espace. Le Covid, cette crise-là, va encore modifier la donne. On s'entend que le niveau de gravité n'est pas du tout de même dans les trois cas. Mais c'est trois événements complètement distincts, avec une gravité complètement différente, mais qui sont malheureusement, qui ont été, je dirais que le plus choquant, c'est sans doute dans septembre, le plus mortel, c'est ce Covid-là. Et la crise économique a irrémédiablement brisé des vies. Donc, il n'y a pas de degré dans ce qui est...
Bien sûr. Mais il y a un point commun qui est de... Ça change le script, notre routine, ça perturbe, ça interrompt.
Exactement. Donc, ça va... Ceux qui vont être capables de s'adapter vont faire la différence. Et je te dirais que... À connaître les gens aux Antilles, je pense qu'il y a une qualité naturelle qui est développée dans cet espace-là pour s'adapter rapidement, pour survivre et vivre. Donc, c'est certain qu'on va trouver ce côté... Tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais les Antilles sont l'un des premiers départements en termes d'entrepreneuriat. Beaucoup de très petites entreprises, mais chacun veut créer sa petite affaire, son petit business. Chacun veut se prendre quelque part un peu en main. Je te dirais que le corollaire, c'est qu'on travaille peut-être un peu moins bien ensemble. Mais il y a un côté très entrepreneurial chez les Antillais. Puis je fais une généralité, c'est pas vrai pour tout le monde, heureusement d'ailleurs, mais il y a ce côté-là où on a envie de faire quelque chose pour soi. Et à côté de ça, je sais pas si tu as remarqué, mais chaque fois qu'il y avait une catastrophe, tout le monde se serrait les coudes.
La solidarité.
Et ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai gardé ce lien-là, ce côté-là. Et je te dirais que mes amis sont encore là, ont encore parfois ce réflexe. Puis maintenant, j'ai des amis qui sont en Belgique, en Équateur, en Guadeloupe, en France. Et quand on se réunit et qu'on parle, c'est souvent là. Il y a des petites questions qui se posent sur justement cette capacité à être solidaire. Puis ça, je trouve ça génial.
C'est vrai que c'est une force d'ailleurs. Je pense qu'il y a une corrélation qui a été mesurée entre ce qu'on appelle la confiance sociale et donc la capacité d'une communauté à se serrer les coudes et à se faire confiance mutuellement et la performance économique. Il y a une corrélation directe. Et donc on voit d'ailleurs il y a le World Happiness Report qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc le rapport mondial sur le bonheur. Et qui identifie encore les pays scandinaves comme les premiers pays où ils feraient le mieux vivre quelque part. Dans ces pays, il y a un degré de confiance sociale qui est particulièrement haut, qui est sans doute le plus haut. Alors, je vais pas m'avancer là-dessus, mais qui est particulièrement très très haut.
Je vais te prendre un exemple d'une communauté un peu à part que j'ai pu côtoyer pendant un petit temps, qui est la communauté hassidique, juive hassidique de Montréal. Qui vit presque en autarcie là. Mais je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce qu'ils font pour fonctionner, ces gens-là? Ils ont très peu d'interactions, ils sont au milieu. Et puis finalement, j'ai découvert en discutant avec ma conjointe qu'ils avaient un annuaire d'entreprise. Ils s'étaient développés, en fait, ils se serrent les coudes. Et pour alors, on s'entend que c'est parce qu'il y a aussi une image, il y a une culture derrière, il y a une religion derrière aussi, et puis ça se respecte. Mais ils ont réussi à créer ce genre de choses, et ça fonctionne. Et même, on constate aujourd'hui, sans parler de repli sur soi, que certaines communautés arrivent à créer des espaces pour pouvoir mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, par exemple, il y a des banques qui financent essentiellement des projets des membres de la communauté noire, parce que ces gens-là avaient de la difficulté à trouver des fonds. Aujourd'hui, on constate de manière plus large qu'il y a des organisations qui favorisent le développement chez les femmes, pour les femmes. Ça, c'est essentiel. Parce que les problématiques que l'on va constater dans l'entrepreneuriat féminin sont peut-être un peu plus, sont différentes de ce que des problématiques de l'entrepreneuriat masculin. Avec la prise en charge des enfants, la volonté de vouloir justement d'avoir une position qui va leur permettre d'évoluer. Et il y a des organismes, on peut en citer par exemple à Montréal, comme Femmes Essor notamment, qui vont permettre le développement de ce genre de choses. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire encore une fois, il y a des points négatifs au communautarisme, entre guillemets, mais il y a aussi certains points qui peuvent être positifs. Donc, là, il y a une phrase que j'aime beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Réjean, qui est un prof d'histoire, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, un Guadeloupéen qui enseigne maintenant à la Sorbonne, brillant, soit dit en passant, qui te dit toujours, tout n'est pas si simple. Tu ne peux pas simplifier les choses comme ça. Et quand il parle des problématiques de l'esclavage, notamment quand il aux Antilles, remettons dans un contexte, remettons les choses, tout n'est pas si simple. On ne peut pas avoir une position trop tranchée. C'est un beau rappel à l'ordre, je trouve.
Je te remercie pour ça, Sébastien. D'ailleurs, C'est vrai que la notion de communautarisme, bon, tout ce qui est en isme est peut-être un peu trop, mais il y a quand même des points positifs à aller chercher pour peut-être modéliser ce fameux après. Quand tu parles de, il y aura un avant Covid-19 et un après Covid-19, quelque part, c'est peut-être l'opportunité d'aborder la situation avec résilience, comme tu l'as dit, capacité à se débrouiller, mais peut-être aussi à se transformer. Comment ça va? Oui, vas-y.
Ce que j'avais à te dire, c'est que, en fait, oui, on a l'opportunité, notamment avec ce confinement, bientôt ce déconfinement. J'ai envie de te dire qu'on pouvait préparer ce déconfinement et on peut le faire. En se formant peut-être un peu plus, en devenant plus agile sur les outils, en pensant à comment est-ce qu'on va travailler demain. On a cette opportunité-là, il s'agit de la saisir. C'est sûr que si tu te mets en mode Netflix toute la journée ou à tourner dans le salon, à essayer de trouver des solutions à des problèmes que tu ne peux pas résoudre, c'est aussi ça la résilience, c'est être capable aussi, il faut être capable aussi de faire ses choix de bataille. Là, c'est sûr que ça peut poser problème. Profiter de cette opportunité pour, justement, on est coincé, on ne peut pas aller vers les autres physiquement, aller vers les autres numériquement. Et c'est aussi peut-être l'occasion de se doter d'une discipline, d'une discipline de vie, de travailler sur soi. C'est une opportunité pour moi.
Mmh. Tu l'as mentionné en début de Pause Café, que c'était un moment pour toi que tu pouvais utiliser pour réfléchir également. Est-ce que, en tant que... Je vais faire appel à ton côté expert en recrutement et ta connaissance en fait du marché du travail et en Guadeloupe, mais aussi beaucoup au Québec maintenant, étant donné que tu es en contact beaucoup avec les entreprises. Est-ce que tu pressens ou est-ce que tu observes peut-être des signaux qui pourraient nous aider, des signaux d'alerte ou des éléments qui peuvent nous aider à mieux comprendre quels sont les risques et les opportunités qui pourraient se manifester dans ce déconfinement, dans le retour à la normale, entre guillemets, le retour au travail, avec tous ces gens qui ont travaillé en télétravail, tous ces gens qui ont arrêté de travailler, qui doivent retourner au bureau. Est-ce qu'il y a des...
Ouf, c'est un sujet complexe. Ce que je peux te dire, c'est que déjà, on était aux Antilles, et le Québec, c'était des marchés miroirs, des marchés de l'emploi miroir. C'est-à-dire que, avant la crise, beaucoup de chômage en Guadeloupe, peu de chômage au Québec, plein emploi. Donc, opposé, si tu préfères. La crise que l'on a vécue, j'ai envie de te dire que le risque de chômage risque peut-être de s'aggraver aux Antilles, fort probablement, puisqu'il y a des secteurs, des pans de l'économie complets qui sont sinistrés, comme le tourisme, en fait. Oui. Au Québec, on va passer de l'autre côté. On va connaître une période pendant je l'évalue à peu près entre 12 et 18 mois, grosso modo, où on va connaître des problèmes de pénurie. Avant, c'était pénurie de main-d'œuvre, là, ça risque d'être pénurie d'emploi. Parce qu'on a des secteurs similaires qui ont été touchés. Le Montréal, le Québec vit de festivals, vit de tourisme aussi, très fortement. Puis là, c'est sûr que ça a été un coup d'arrêt complet. L'été, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, l'été, c'est super vivant.
C'est le meilleur été que vous pouvez pas vivre au monde. L'été à Montréal, c'est assez. Oh, j'exagère peut-être un peu. Chacun son expérience, mais c'est tout un truc à vivre, c'est vrai.
Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. donc, c'est certain que là, il y a des similarités maintenant aujourd'hui entre les deux marchés. Irrémédiablement, j'ai envie de te dire que pour moi, le facteur de différenciation va se retrouver au niveau de la technologie. C'est-à-dire que pour le recrutement notamment. Il va falloir que les gens soient beaucoup plus agiles en technologie. Pourquoi ? Parce que les premiers emplois qui vont être touchés, quelque part, ce sont les emplois où les niveaux de qualification sont les plus bas. Comme d'habitude, on coupe en premier là. Et les niveaux qui sont un peu plus élevés, les niveaux de qualification sont plus élevés, la technologie sera le facteur de différenciation. En règle générale, j'ai envie de te dire que plus tu fais des études théoriquement, plus tu es supposé être à l'aise à l'utilisation de ces outils. Donc ça sera un des points du côté des employés.
Des gens qui cherchent le travail.
Donc, ils vont devoir, moi, le point d'alerte que j'aurais à faire sur ces gens qui ont une agilité avec les outils, puisque je ne vais pas me permettre de venir, malheureusement, je ne suis pas un politique, et les dispositifs qui vont permettre de favoriser l'emploi des niveaux de qualification les moins importants. Je n'ai pas vraiment la main là-dessus. Je peux te parler, par contre, des gens qui sont assez agiles avec les outils numériques, notamment. Ben, j'ai envie de te dire que la grosse différence va se faire à ceux qui seront capables d'utiliser des réseaux professionnels pour mettre en valeur leur parcours. Je dis toujours que le développement de carrière s'appuie sur trois piliers. Le développement des compétences techniques, le développement des compétences transversales et le développement du réseau. Les trois interagissent ensemble.
Le réseau
nourrit tes compétences transversales nourrissent le réseau et ton réseau te sollicite parce que tu as des compétences techniques. Donc, c'est trois piliers qui doivent fonctionner ensemble. Bien souvent, les étudiants, les gens même, focusent uniquement sur deux de ces points, c'est-à-dire ou les compétences techniques ou les compétences transversales, alors que le réseau devient un élément fondamental. Donc, qui vont développer leurs compétences, ceux qui vont développer leur réseau au travers de réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple, pour ne pas le citer, qui vont faire un petit peu plus attention à ce qu'ils écrivent sur Facebook. Je devrais parfois, moi aussi, faire attention. ceux qui vont peut-être mieux appréhender cette notion-là, qui vont apprendre à rechercher de l'emploi, qui vont apprendre à aller plus loin, vont peut-être tirer leur épingle du jeu plus facilement. De notre côté, les conseils que j'aurais à donner aux employeurs, c'est quand vous avez appris que vous pouviez travailler, que vous pouviez faire travailler des gens en télétravail. Mais ça veut dire que vous pouvez normalement élargir complètement le spectre de votre recrutement. Avant, quelqu'un qui travaille à Montréal, vous vouliez le recruter à Montréal. Aujourd'hui, vous pourrez recruter la même personne en région, c'est-à-dire ou même aux Antilles.
Et oui, c'est le même fuseau horaire, à part en hiver où ça décale d'une heure. Je le vois avec HumansLink, Jean-Luc et moi, on travaille tout le temps à distance.
Puis je vais être sincère avec toi, là je suis à Montréal, mais je discutais récemment, il n'y a rien qui m'empêcherait de vivre en Guadeloupe, par exemple, et de venir une fois par mois. Bon, le bilan carbone serait plus élevé, ça c'est à peu près sûr, hein, mais de venir une fois par mois à Montréal pour assister à quelques réunions importantes. Mais aujourd'hui, on a prouvé qu'on était capable de travailler à distance. Donc, pour les employeurs, c'est une opportunité d'élargir leur spectre de là où leurs compétences semblent être limitées. Même les employeurs les plus férus sont obligés de constater « Ouais, c'est pas évident, mais on est capable de faire quelque chose avec ça, le travail à distance. » Donc, irrémédiablement, je pense que ça va changer. Pour ce qui est des RH, je te dirais que l'implantation de la technologie dans les RH, encore une fois, sur non seulement les méthodes d'entretien, mais aussi les algorithmes de recrutement. Ça va changer pas mal les choses. C'est pour ça que les gens doivent faire attention à leur profil numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que tu auras une identité professionnelle, mais tu auras aussi une identité numérique. Donc, mettre en valeur leur parcours, mettre en valeur les expériences sur le web, c'est vraiment important parce que ça va devenir le premier vecteur de recrutement. Mmh. Ça l'est déjà, d'ailleurs.
En restant vigilant sur les plateformes plus dites personnelles, comme Facebook, Instagram, les TikTok et tout ça. Parce que ce que tu nous dis, ce que j'entends ici, c'est que les nouvelles technologies dans le domaine des RH et du recrutement vont aussi utiliser des algorithmes pour pouvoir évaluer en fait un profil en prenant aussi en compte ces paramètres-là.
Ben écoute, t'as même des organisations. Alors bon, encore une fois, je peux en parler parce que je fais pas de publicité dans l'absolu. À cette organisation parce que je travaille pas avec elle, mais t'as une structure qui s'appelle Valital à Montréal, une entreprise qui a développé un système d'analyse qui ne tient pas compte des réseaux sociaux. Donc ça leur permet de immédiatement pouvoir savoir en recrutement qui a les meilleures compétences ou pas. Mais ça tient compte d'un certain nombre de choses. Donc ça analyse les métadonnées et c'est extrêmement rapide. Aujourd'hui, par exemple, on commence dans les problématiques de recrutement ou d'analyse de marché de l'emploi à utiliser des outils d'intelligence d'affaires. Donc, c'est cette organisation-là, effectivement. Donc, c'est pour faire face à des besoins de pénurie que cette plateforme-là existe avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc, ça a changé. Le monde du recrutement a changé. Aujourd'hui, tu as des organisations comme... des plateformes de recrutement comme Jobsilom également à Montréal qui font un travail extraordinaire. Les vieux systèmes de cabinet de recrutement comme ils existaient avant, je pense, sont amenés ou à disparaître ou à muter. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis personnellement, c'est une des choses dont je parle peu sur mes profils. mais j'ai une spécialisation en intelligence d'affaires que j'ai développée en travaillant au pôle d'intelligence d'entreprise, où on me demande de plus en plus d'intégrer des outils d'analyse d'intelligence d'affaires dans les problématiques d'analyse du marché de l'emploi. Donc, ça veut dire que l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle, l'optimisation des métadonnées dans le monde du recrutement va devenir de plus en plus importante.
D'où l'importance, donc tu mets vraiment en avant faut avoir cette prise de conscience. D'un côté, pour les entreprises, parce qu'il y a ces outils-là pour aller chercher, on élargit le spectre, en fait. Et même si on est en Guadeloupe, on peut aller chercher des gens en dehors de la Guadeloupe. Si c'est très opérationnel à ce moment-là, on peut aller sur le même fuseau horaire. Et on pourrait même penser recruter sur d'autres fuseaux horaires, en fait. Et même si on est à Montréal, au Québec, on peut recruter aussi ailleurs et même dans la Caraïbe, par exemple.
Il faut juste sauter le pas de la peur. C'est-à-dire qu'on a en recrutement, le problème que l'on rencontre souvent, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est une personne qui essaie de contrôler son environnement. C'est un paradoxe parce que c'est quelqu'un qui prend des risques, mais qui va essayer de contrôler au maximum les choses et qui a besoin d'un contrôle sur son environnement. Parce que justement, il dépend d'un environnement externe, donc il essaie de maximum de contrôler son environnement, donc ses employés. C'est certain que c'est un petit peu lâcher la bride. Imaginez quelqu'un qui travaille à distance, les premières réponses qu'on va te dire, ouais, mais on ne sait pas quelle heure il a commencé, on ne sait pas s'il est à son poste. Ouais, mais si tu réfléchis avec lui, tu écoutes, voilà le job que tu dois faire, voilà ce que tu dois livrer, que tu travailles de 6h à 6h du matin ou que tu travailles la journée, le principal, c'est que tu sois disponible et présent. Les outils aujourd'hui permettent de pouvoir réfléchir comme ça. Il faut juste franchir cette peur. Admettons que tu sois Saint-François et qu'aujourd'hui, c'est quoi qui t'empêche de recruter quelqu'un spécialisé dans le domaine dont tu as besoin qui serait à Grand Case ou par exemple à Trinité et qui connaît aussi les problématiques insulaires, les dynamiques, etc. C'est quoi qui t'en empêche ? Admettons même que tu sois dans une institution publique. Ça redéfinit le travail en tant que tel. Ça peut même aller jusqu'à redéfinir, je vais aller plus loin que ça, ça redéfinit même l'espace. Parce que là où tu as besoin de tu te disais, mais où je vais pouvoir mettre cette personne ? Ben écoute, elle peut travailler peut-être de chez elle si tu arrives à lui donner les outils nécessaires.
C'est vrai, puis il y a de plus en plus d'entreprises, alors qui sont assez sûres dans le secteur activité plus tech, mais qui sont 100% remote et qui vont faire du recrutement partout dans le monde, en fait, et avoir des équipes de. On peut très bien avoir des petites entreprises de 50 personnes, mais qui fonctionnent 100% en remote, donc en télétravail, pardon. Et ça fonctionne bien. Alors, c'est sûr que. On a déjà parlé du télétravail sur une autre pause café et on voit qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi des petits points de vigilance parce que comme tu le disais, Sébastien, tu fonctionnes très bien, ça te convient très bien le télétravail, mais tu as quand même ces besoins de contact physique par moment. Je voudrais revenir sur le point. Si les gens sont pas là et le chef d'entreprise a besoin de lâcher la bride, comme tu dis, moi, ce que j'entends ici, c'est revenir à la notion de confiance. C'est pourquoi j'ai engagé cette personne-là à la base. Pourquoi j'ai choisi que cette personne-là soit dans mon organisation et pourquoi j'ai dit à cette personne-là de travailler sur ce dossier-là.
Écoute, c'est génial ce que tu me dis parce qu'il y a, il y a peut-être un mois, même pas un mois de ça, il y a quelques jours de ça, j'expliquais à un étudiant que au bout d'un moment, ton réseau travaille tout seul pour toi. Et c'est ton réseau qui doit venir à toi. Puis dans la même journée, j'ai eu une offre d'emploi d'une autre organisation, bon, que j'ai déclinée bien sûr, même si c'était plutôt rigolo. Mais j'ai surtout eu une personne que je connaissais qui me dit, c'était son premier recrutement. Donc il a créé son entreprise, son organisation, dans le domaine des arts et de la culture liés au tech, et qui me disait, comment est-ce que tu peux me donner quelques conseils pour recruter ? J'étais là, mais bon, écoute, c'est vrai qu'il y a marqué expert en recrutement, ça, c'est sur le profil LinkedIn, c'est vrai, c'est sympa, mais tu sais, en recrutement, c'est quelque chose de compliqué. Il n'y a pas une réponse, il y en a plein, c'est en fonction des gens. Et je lui dis, écoute, de ce que j'ai retenu en ressources humaines, je précise que c'est la seule matière où j'ai eu A+ ou MBA, Non, j'ai eu des à moins, mais la seule où j'ai eu à plus, c'est en ressources humaines. Ce que je lui ai répondu, c'est rappelle-toi de cette phrase, le personal job fit, c'est-à-dire que la personne que tu recrutes, tu sens qu'il y a un lien qui se crée avec elle. Les compétences techniques, ça s'acquiert. Les compétences transversales, ça se développe, le réseau aussi. Mais il y a un truc en recrutement qui est super important, c'est qu'il faut que vous ayez, que vous sentez que vous avez envie de travailler ensemble. Si tu recrutes quelqu'un juste pour ses compétences techniques et que c'est un, désolé, qu'il n'a aucune compétence transversale, qu'il est désagréable, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. J'ai vu des gens brillants, mais brillants, mettre en l'air des organisations en quelques jours, simplement parce qu'ils étaient imbuvables. Et j'ai vu des gens qui étaient plus que moyens et qui étaient virés parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques, mais personne ne s'était rendu compte que ces gens-là avaient été le liant dans l'organisation.
C'est incroyable. C'est 100% la notion de culture d'entreprise. Et qu'on rappelle, c'est les entreprises, c'est créé par qui ? Et c'est créé pourquoi ? C'est par les hommes, pour les hommes. Et donc, c'est, si on approche effectivement le recrutement, puis même le management, en oubliant cet élément humain et cet élément relationnel, qu'on est des êtres vivants qui fonctionnent ensemble, ça peut avoir des répercussions catastrophiques.
Attention, j'ai pas dit qu'il fallait recruter juste des mecs qui étaient super sympas. Mais
non, bien sûr.
C'est un des éléments.
À compétence égale. Et puis même, d'ailleurs, parce que on pourrait même débattre là-dessus sur compétences légèrement moindres, mais il faut prendre en compte le caractère et ce fit. Parce que, comme tu le dis, une compétence technique peut être développée, mais l'attitude de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on va changer. Et l'entreprise n'est pas faite pour changer les gens de cette manière-là. Donc, effectivement, si on peut avoir un bon fit entre les individus, puis quand on recrute pour une plus grosse structure, il y a la personnalité de l'organisation, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et c'est pour ça que c'est super important de recruter avec cet élément-là. D'ailleurs, Sébastien, toi qui… Alors, avant, dites-nous en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait 45 minutes qu'on est là et on a à peu près encore un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Nous, on est là, on regarde avec Jean-Jacques French de Humans Link les commentaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre. Et puis, je les ferai remonter à Sébastien. On y reprendra ensemble, ça nous fera plaisir. D'ailleurs, Sébastien, toi qui es beaucoup en contact avec cette nouvelle génération de personnes qui vont à l'université dans différents programmes, donc qui vont se former sur beaucoup de compétences techniques, dans une organisation qui va favoriser cette intégration entre l'entreprise et les compétences qui sont développées et ces êtres humains, quelque part, qui sont préparés à aller travailler. Est-ce que tu vois un shift, est-ce que tu vois une transformation entre les attentes, quelque part, entre les... Oui, je dirais ça comme ça, entre les attentes que les étudiants aujourd'hui ont du monde de l'entreprise.
Il y a un concept qui est un petit peu nouveau. Alors, c'est très québécois, où on est vraiment centré sur l'humain. C'est la notion de valeur. J'ai une étudiante qui me disait, qui avait fait un stage dans un des Big Four, c'est-à-dire l'un des gros cabinets d'audit de Montréal, et là, on te parle de salaires qu'ils vont chercher très haut, là. Qui disait, non, moi, c'est pas ça, ça m'intéresse pas, je veux avoir une vie. On constate que de plus en plus d'étudiants posent cette problématique-là. Elle n'est pas nécessairement présente au début, où on rêve d'abord de gros salaires, de tout, on rêve de beaux vêtements, mais très vite, quand ils se rendent compte que ils n'ont plus de vie, là, c'est là où ça commence un peu à changer. On a cette notion de prise en charge, de prise en charge personnelle. C'est pas je ne parle pas de génération Greta, là, c'est pas ça du tout. Mais on doit tenir compte de certains éléments. Et ça, de plus en plus de nos étudiants nous parlent un petit peu de ça. C'est pas la majorité, s'il faut être clair. Mais on a ce virage qui est en train d'être amorcé de prise de conscience en disant, écoute, j'ai pas envie de vivre dans un monde complètement pourri. Donc, c'est sûr que le marché n'est pas encore prêt à ça, je pense, pour le moment en tout cas. Il est en train peut-être de voir un virage qui est en train de s'amorcer, où on commence à se poser ces questions-là. Les trois quarts du temps, j'ai envie de te dire que ce n'est pas nécessairement les virages que les entreprises ont amorcés sont pas nécessairement réelles. C'est beaucoup de façades, mais ça commence par la façade pour que ça puisse percoler. La notion de marque employeur commence à se développer. Tu as d'ailleurs t'as un gros professionnel, un grand défenseur de la marque employeur au Québec, c'est Vincent Marzou, qui est quelqu'un qui fait des posts très disruptifs sur la marque employeur, sur comment développer une marque employeur. C'est vraiment important. Donc, on est en train d'avoir cette mutation de génération, oui. Ça, c'est un fait. Et le marché, je pense, va probablement muter avec le temps. Le boulot des professionnels comme toi et moi, je pense, c'est d'accompagner les professionnels du recrutement à tenir compte de cette dimension, à travailler sur leurs offres d'emploi, en précisant ce que l'entreprise va apporter, plutôt que de dire, écoute, je t'offre ça, ça, ça et ça, avec une machine à café, avec un baby-foot et des balançoires. Non, c'est voilà la différence que tu peux faire, voilà ce que tu vas apprendre, voilà comment tu
vas faire. Surtout que plus aujourd'hui, c'est un fait, c'est mesuré par plusieurs études et c'est reconnu aussi d'un point de vue par l'expérience quand on parle à, mais peut-être plus à ma génération, la paye, le salaire n'est plus le critère numéro un d'intérêt. C'est un critère qui arrive peut-être en deuxième, troisième position. Encore une fois, ça va varier d'un individu à l'autre, mais globalement, ce n'est plus le premier. Puis même, l'accent n'est pas mis sur combien d'argent je vais gagner, mais c'est plutôt quel sens ça va donner à ma vie. Pourquoi je vais faire ce que je vais faire? Parce qu'il y a cette déconnexion entre cette notion de vie de travail, vie de famille. C'est tout le temps ma vie. Et donc, on ne parle plus nécessairement de est-ce que je suis satisfait au travail, mais c'est comment je me développe dans mon poste. Et ce n'est pas combien je suis payé, mais c'est quel est le sens que ça donne pour moi. Et c'est là où la notion de... Enfin, c'est un élément à prendre en compte, une prise de conscience à avoir dans les organisations. C'est une bonne chose qu'on passe de l'un à l'autre. Et c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus avec ces nouvelles générations qui arrivent.
Écoute, je vais te prendre un exemple qui va te faire sourire. Tu prends quelqu'un que ce soit en Guadeloupe ou au Québec. On va le prendre, par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique. Tu lui dis quelqu'un qui ne travaille pas. Tu lui dis, je te paie le double du salaire minimum pour rester assis sur une chaise. Tu commences le matin à 8 heures, tu termines à 4 heures, mais tu es assis sur une chaise et tu ne fais que ça. J'aimerais savoir combien de temps la personne va réussir à tenir. Juste être assis. Aucune tâche, rien. Tu n'as pas le droit de lire. Ta tâche, c'est être assis. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit de parler. Tu restes assis. Mais c'est à peu près certain que la personne, au bout d'une semaine, elle va complètement péter un plomb. C'est bien le lien qui peut te dire que le rapport entre l'argent, la rémunération en tant que telle, ne peut pas être le seul vecteur. De la même manière que, au bout d'un moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus tu donnes de l'argent à quelqu'un, plus il va adapter son niveau de vie. Donc, ce qui veut dire qu'il en aura toujours besoin théoriquement d'un peu plus, parce qu'il va vouloir aller chercher ça. Si c'est le moteur premier, écoute, c'est un choix. Mais si la rémunération est le moteur premier, l'entreprise ne peut pas se développer parce qu'une offre en entreprise concurrente qui va offrir plus, la personne va s'en aller. Donc, en fait, tu as cette notion qui doit être de plus en plus prise en charge. Et effectivement, le salaire est un vecteur, mais ne peut pas être le seul vecteur.
Exactement. Ouais. Tu parlais aussi de valeur, quelque chose qui intervient de plus en plus souvent. Et c'est vrai, c'est quelque chose, d'ailleurs, avec Humain Slink, on utilise ce qu'on appelle le management par valeur, où l'idée, c'est de pouvoir aller questionner chaque personne dans l'organisation et de pouvoir sonder et de comprendre quelles sont les valeurs individuelles pour pouvoir potentiellement collectivement en fait recréer une culture d'entreprise et aussi correspondre à tout le monde. Puis pour le département RH, c'est d'être conscient, ok, voici les valeurs actuellement dans mon entreprise, voici ce que collectivement on a décidé. Et du coup, dans le recrutement, c'est une vraie force parce que dès qu'on va choisir quelqu'un, on va aussi pouvoir mesurer ça. Parce qu'il y a effectivement, il y a Myriam ici qui nous dit « Difficile d'évaluer les compétences comportementales lors du recrutement. Certains sont très bons en entretien. »
Elle a absolument raison. C'est pour ça que moi, dans ces cas-là, il y a quelque chose… J'ai une petite technique que j'emploie régulièrement. C'est je demande aux personnes de me parler d'un bon coup, d'une réussite, qui m'explique un petit peu la réussite. Et c'est quoi les facteurs qui font qu'ils ont réussi ce coup-là? Si une personne commence à réfléchir sur, en se posant elle a du mal à parler d'une réussite personnelle ou professionnelle, c'est sûr que ça va me donner pas mal d'indicateurs, parce qu'en général, elle est censée justement pouvoir véhiculer les qualités qu'elle a mises en œuvre pour réussir. C'est sûr que certains ont des compétences comportementales, ils sont très bons en entretien, mais il faut pas, je te dirais qu'il faut avoir il faut se laisser l'opportunité de se dire qu'on n'est pas responsable qu'uniquement de la réussite, mais on peut par contre créer les conditions de la réussite d'un entretien. Et ça veut dire que il y a plusieurs méthodes. Effectivement, tu as des tests qui peuvent être faits. On ne peut pas les généraliser, ce n'est pas évident de le faire. Mais moi, le point surtout que je mets souvent, je mets l'emphase en recrutement, c'est OK, parlez-moi d'une réussite particulière et qu'est-ce que vous avez mobilisé comme qualité chez vous pour pouvoir réussir. Ça m'aide à me donner des indicateurs sur ce dont la personne va avoir besoin pour pouvoir à nouveau réussir aussi dans ce poste-là. Mais effectivement, on a des professionnels de l'entretien. J'ai envie de te dire que le point positif dans cette histoire, c'est qu'ils ont su s'adapter. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse parfaite, effectivement. Mais il faut s'autoriser à se faire confiance et justement à apprendre à ressentir les gens. Écoute, tu vois, les quelques recrutements que j'ai eu l'opportunité de faire, pour l'instant, j'ai eu peut-être un cas où ça a été compliqué par la suite.
Ok.
Mais
de recrutement où vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez décidé, ok, on valide.
Ouais,
et finalement, ouais.
Un cas où ça a été compliqué. Et paradoxalement, sur ce coup-là, c'était je te dirais pas la faute, mais il y avait eu un problème de transparence de l'employeur. Donc, c'est sûr que tout n'est pas du côté des salariés, ça c'est certain, et tout n'est pas du côté des employeurs. Encore une fois, le recrutement n'est pas une science exacte. C'est quelque chose de très humain. Et la première qualité, je pense, d'un recruteur, c'est d'avoir ce côté humain. C'est d'être en contact avec ce côté, d'aller pouvoir chercher ce qui est le moteur chez l'autre.
Grande intelligence émotionnelle, donc.
Alors écoute, c'est quoi le pavé que j'ai derrière sur ma table de chevet ? C'est un bouquin sur l'intelligence émotionnelle.
Ah oui.
Qui fait ça et dont j'ai à peu près lu ça. J'ai encore du boulot.
Il y a Yolande Casimiro qui nous dit « C'est bien un point à modifier dans les procédures françaises. Les recrutements se font uniquement sur les diplômes en oubliant souvent les compétences comportementales. » Donc effectivement, on en parle. D'ailleurs, il y a une stat, hein, c'est 80% des licenciements ne se font pas sur un problème de compétences techniques, mais se font souvent sur un problème de soft skills, de compétences transversales. Donc les gens en France et dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits dans le monde sont souvent engagés sur des compétences techniques, les hard skills, et sont ensuite licenciés. Quand ils sont licenciés pour des raisons de compétences transversales ou un problème de culture fit, justement, qui n'est pas adéquat.
Je trouve que la réflexion de Yolande est vraiment super intéressante et je vais même aller plus loin. Je dirais, oui, on oublie effectivement les compétences comportementales, mais on oublie que normalement, dans un monde idéal, un recrutement se passe dans les deux sens. C'est-à-dire que l'entreprise recrute la personne, mais on devrait aussi penser que le candidat devrait pouvoir recruter l'entreprise. C'est-à-dire aussi pouvoir poser ses questions. C'est souvent un sens unique. Si tu veux que ça fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment un arrimage. Il faut qu'il y ait vraiment cette notion d'arrimage. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Alors, c'était super dans le contexte québécois parce que les étudiants avaient le gros bout, enfin, les gens avaient le gros bout de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller chercher des entreprises différentes en cherchant celles qui leur correspondaient le mieux. Et si ça n'allait pas, je partais. Mais là, aujourd'hui, de se dire, bon, et si on cherchait, plutôt que de chercher de la compétence purement technique et du comportement, le gars super sympa, et si on allait chercher un véritable arrimage entre les deux ? C'est-à-dire que tu as les compétences techniques, tu as les compétences comportementales, mais en plus, ce que je te propose, moi, ça va te plaire. Donc, vraiment, que le recrutement se passe à double sens. Ça, pour moi, c'est un gros, 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 gros pari sur l'avenir. C'est le jour où on comprendra que le recrutement doit se passer à deux sens. C'est comme un couple. Il faut qu'on se choisisse. Et tu passes plus de temps en entreprise que chez toi.
Ouais. Aujourd'hui, on passe 70% de notre temps éveillé au travail.
Donc, écoute, c'est ça. Et souvent, tu choisis beaucoup plus. T'es beaucoup plus difficile à choisir la personne avec qui tu es que l'entreprise avec qui tu vas travailler. Alors, tu me diras, ouais, mais tu ne peux pas changer de la personne avec qui tu es. Si, ça se fait maintenant. Ça, et c'est de plus en plus facile, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas nécessairement de plus en plus facile d'un point de vue technique. De plus en plus émotionnel, c'est plus dur. Quoique, souvent, il y a des licenciements, c'est pire que des ruptures. Donc, mais on doit repenser cette notion d'arrimage, vraiment. En tout cas, dans mon métier, c'est un point sur lequel j'amène souvent les organisations, leur dire, fais en sorte que l'entreprise se recrute aussi. Fais en sorte que le candidat te recrute et te dise, hey, oui, j'ai envie d'aller bosser avec toi.
D'ailleurs, un truc là-dessus que je peux partager, c'est... Enfin, déjà, une observation, c'est qu'on sait beaucoup qu'est-ce que les entreprises font, ce qu'elles font. C'est ce qu'on peut appeler le « what », le « quoi ». Quand on fait un peu de recherche, ils ont une page, justement, marque employeur. Ils vont expliquer comment ils font les choses. Nous, on recrute des gens de tel endroit, de tel endroit. Il y a des valeurs qui sont affichées. Mais il y a peu d'entreprises où on est capable de comprendre, même lors d'un entretien, pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait. C'est quoi le why, quelque part, et l'essence même de la raison d'être, mais pas la raison d'être qu'on affiche sur le site web, la raison d'être qui est vécue et qui est partagée dans l'expérience de ça. Et donc, cet élément-là, c'est un truc que je trouve très facile et en même temps très profond, c'est-à-dire que notre capacité à partager le pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est ce qui va permettre d'aller toucher une partie chez l'autre qui va l'inspirer ou pas. Et donc, les gens n'achètent pas. Et donc, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Les gens achètent pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc, quand je suis quelqu'un qui cherche du boulot, ben, je ne vais pas être convaincu par ce que l'entreprise fait nécessairement. Je vais être profondément convaincu et inspiré par pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait. Et c'est encore plus vrai pour les plus jeunes générations, parce qu'on l'a vu, elles sont d'autant plus motivées par cette notion de sens, de à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Cette partie-là.
Mission, vision, valeur. Qu'est-ce que l'entreprise se donne comme mission ? C'est quoi sa vision pour l'avenir ? Et c'est quoi les valeurs qu'elle porte et qu'elle sous-tend dans chacune des choses qu'elle veut mettre en place ? C'est pas anodin, c'est sûr que c'est important. Si on parlait de ma principale crainte, ça serait justement qu'avec ce retournement de déconfinement, que justement, on avait un bon rythme au Québec par rapport à ça, c'est qu'on revienne dans, t'as besoin de moi, je te recrute, et puis ça s'arrête là. Puis c'est ça, donc ma principale crainte, c'est ça, mais je reste optimiste parce que je me dis que cette période de crise va effectivement faire changer les choses de manière durable, mais la capacité des hommes à pouvoir rebondir, à développer de nouvelles filières, à aller chercher de nouvelles choses, est quand même assez impressionnante. Donc, il faut se faire confiance. Puis, il faut faire confiance à l'entreprise. Faut faire confiance aux hommes et aux femmes. Et puis, se laisser la chance de se dire, on est capable tous ensemble, si on s'y met, chacun à son niveau. Un petit peu comme la fable du colibri et du grand incendie, que je pense que tout le monde connaît là. Je ne vais pas citer Pierre Rabhi. C'est cette histoire où chacun doit faire sa part. Même si ça apparaît comme ça ne fait rien, on fait notre part au quotidien. C'est pas évident, c'est dur.
On est tous responsables. On a tous ce pouvoir d'influence et donc on a avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, notamment celle de faire Spider-Man.
Oui.
Merci parce que je savais que c'était. C'était cet univers-là, mais je ne me rappelais plus lequel c'était.
C'est quand Oncle Ben, je crois, dit à Peter Parker, au moment où il décède, qu'avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Puis ça, c'est vrai. Spider-Man.
C'est très, très vrai. Spider-Man.
Spider-Man, c'est la source.
Bon, je n'ai pas pu faire remonter les commentaires de tout le monde. Mais en tout cas, la pause café, on arrive déjà au bout. Je vous remercie tous pour avoir commenté. Peut-être que je peux en lire un ou deux encore. Il y a Maggie Jaffarangel qui nous dit « En effet, la paye pèse autrement dans la balance. La paye permet de combler ses besoins. La génération Y réagit sur l'instant présent, sans projection parfois. Pas de pensée sur le lendemain, juste l'instant présent. » C'est effectivement par rapport aux différences générationnelles et ce shift qu'il y a, cette transition qu'il y a entre les différentes priorités.
Ma première mission au Québec aurait dû être celle-là, justement, c'est de pouvoir faire le lien entre les générations. Et ma première réponse avait été oui, mais justement, c'est à l'organisation de favoriser ce lien. Tu ne peux pas former des gens à comprendre un lien. Tu peux mettre en place les conditions qui permettent de favoriser ce lien. Mais tu ne peux pas former, tu ne peux pas dire à quelqu'un, un Y, je vais t'apprendre à comprendre un X, juste comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut créer les conditions.
Ouais, je te remercie pour ce point. C'est super important. C'est une prise de conscience pertinente. Bon, c'est la fin de cette pause café. C'est passé super vite. Je demande souvent aux personnes qui partagent ce moment avec moi et avec nous, la communauté HumansLink, est-ce que tu as un bouquin en ce moment? Alors, tu nous as parlé d'un bouquin sur l'intelligence émotionnelle que tu lis en ce moment. Peut-être que tu peux le partager avec nous. Mais s'il y a un bouquin qui t'inspire en ce moment ou que tu as lu et qui a marqué ton cheminement et que tu aurais envie de le partager avec nous.
Écoute, il y en a deux. Il y en a trois, okay. En fait. Il y a les... Écoute, c'est pas compliqué. Un que j'ai là. Donc, tu vois, c'est pas du fake que j'ai toujours dans mon sac. Que ce sont les 4 accords Toltec.
Ok, je te laisse le montrer. Tu peux le remontrer à l'écran un instant?
Ouais, alors tout n'est pas à. Je te dirais que tout n'est pas nécessairement à prendre là-dedans, mais c'est correct, là, ça va. Un bouquin de Stephen Covey, qui sont les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils
ont. Oui, très bon bouquin.
Que je lis. Et puis, ça a fait rigoler, je pense, les gens qui me connaissent un peu, un Dale Carnegie. C'est comment se faire des amis. C'est pas besoin, mais c'est un bouquin qui est super intéressant sur la notion d'influence. Et quand je parle d'influence, je ne parle pas de manipulation, je parle vraiment d'influence, c'est-à-dire d'y aller dans le côté positif. C'est les 3 bouquins qui sont en ce moment sur... Alors, j'ai fini les 4 accords, mais okay. C'est les bouquins que je vois, en tout cas. Et puis, il y en a un petit dernier, tiens. Qui est un bouquin que peu de gens connaissent pour l'instant, c'est « Les collines se souviennent ». C'est un bouquin qui a été écrit par Oscar Gassana. C'est pas un roman, c'est un résumé de thèse sur la résistance, la notion de résistance qu'il y a eu lors du génocide du Rwanda, au Rwanda.
Okay.
Oscar Gassana a écrit une thèse là-dessus et il étudie en fait, il présente un petit peu comment s'est mis en place les modalités de résistance d'une communauté, d'une petite communauté à Bicicero. En fait, comment le leadership d'une personne, un professeur quelque part, c'est un prof, a permis justement à la communauté de s'organiser et de résister. Donc, c'est une véritable histoire. C'est produit.
Sébastien, tu veux bien redire le nom de ce dernier bouquin, s'il te plaît?
Alors, c'est Oscar Gassana, Gassana, et ça s'appelle « Les collines se souviennent ».
Ok, super.
Donc ça fait partie des ouvrages que je veux lire parce que je pense que bon c'est une histoire de résilience et je pense qu'on en a tous besoin.
Effectivement, c'est puis en plus si c'est une histoire vraie c'est toujours plus inspirant, je trouve.
C'est dur, c'est très dur comme ouvrage, mais ça va très loin. J'aurais bien aimé pouvoir citer quelques ouvrages d'auteurs antillais. J'en ai quelques-uns, mais là, sinon, c'est pas du temps.
Alors, si tu veux, tu pourras me les partager après. Puis nous, on pourra les ajouter en commentaire ou dans la description sous la vidéo, notamment sur YouTube ou dans la description du podcast. D'ailleurs, je profite pour mentionner que toutes ces pauses café, en fait, si vous voulez, vous pouvez les écouter à la maison, dans votre voiture, et avoir les mains libres et pas être nécessairement assis devant un ordinateur parce qu'elles sont diffusées en podcast. Donc, vous pouvez simplement taper HumansLink Audio Experience sur toutes les plateformes que vous connaissez de podcast, que ce soit Spotify, Apple Music, Google Podcast et nommez-les. On est sur toutes les plateformes principales. Donc, vous pouvez aussi suivre la conversation que Sébastien et moi, on vient d'avoir sur ces différentes plateformes-là. Le temps passe vite, comme d'habitude, je vois pas les minutes filer. Merci beaucoup Sébastien pour ton intervention, pour des conseils précieux. Je vais récapituler un petit peu. Ce qu'on note ici, c'est l'importance de la qualité de résilience. Sébastien, tu nous as expliqué qu'il y aura certainement un avant et un après. Et quelque part, c'est de notre responsabilité de faire notre part et d'utiliser ce talent de résilience qu'on a tous ou qu'on peut développer justement pour avancer de l'avant et sortir de cette situation un peu surréaliste, mais qui est bien réelle, en sortir grandi. Et d'ailleurs, tu nous as donné 3 conseils pour les personnes qui vont chercher du travail, chercher de l'emploi. Un, c'est de mettre l'accent sur les compétences techniques, donc soit de les développer ou si vous les avez, de pouvoir les mettre en avant. De pas négliger les compétences transversales parce qu'on l'a vu, l'intelligence émotionnelle est une compétence qui est super importante et qui peut-être même est plus importante dans certains cas que les compétences techniques qui, elles, peuvent se développer facilement avec des formations à l'université ou ailleurs. Et aussi de ne pas négliger son réseau parce que le réseau permet également de développer ses compétences transversales.
Et ses compétences techniques aussi.
Pardon ?
Et ses compétences techniques aussi, puisqu'on peut aller chercher de la compétence technique dans son réseau.
100%. 100%. Et pour du point de vue des entreprises, cette période de transition et d'utiliser la technologie et cette transition un peu forcée peut-être au télétravail nous fait prendre conscience que nos organisations peuvent gagner en agilité et on peut élargir son spectre de recrutement en recrutant pas nécessairement sur son environnement local, mais à travers le monde. Et on peut travailler très, très bien comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie tous ceux qui étaient sur Facebook et sur YouTube qui nous ont suivis en live. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui va rester sur Internet, sur les plateformes. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne puisqu'on revient tous les jours de la semaine à 11h pour une nouvelle pause café. La petite clochette pour recevoir les notifications. Merci à toi, Sébastien. Je te dis à très vite peut-être. Pour des prochaines conversations, c'était très enrichissant. Ça m'a fait beaucoup plaisir de te recevoir ici. Je vous souhaite une belle journée, aussi un bon week-end. On est déjà vendredi. Soyez humains, soyez exceptionnels. Merci.